Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
David Santarossa, bonjour.
Bonjour Yasmine.
Hier, le journal Le Devoir titrait que l'égalité homme-femme reste à faire. Ça faisait la une du journal Le Devoir. Et on rapportait des statistiques quant aux écarts salariales et le nombre de temps consacré aux tâches domestiques entre les hommes et les femmes.
Tout à fait, c'est l'Institut de la statistique du Québec qui sort ça à chaque année, grosso modo. C'est toujours assez intéressant de voir ça. Puis je voulais attirer l'attention sur la question des tâches domestiques. Ici, il y a comme une forme d'inégalité, c'est comme ça qu'on le présente du moins. On parle que les femmes font une heure de plus de travaux domestiques par rapport aux hommes, donc chaque jour. Préparer le souper, faire le ménage, on peut s'imaginer tout ce genre de choses-là qu'on fait et qu'on n'est pas nécessairement heureux de faire. Moi, j'en profite, ma blonde est encore couchée. Je pense pas que je respecte la moyenne, je pense que j'en fais plus que ma blonde. Mais ça, si elle était là, peut-être que...
C'est facile à dire quand t'es couché, ça demande beaucoup de courage de ta part.
C'est ça, exactement.
On va lui envoyer le segment vidéo. Elle va trouver ça à son réveil. Et je te souhaite une excellente journée, David Santarossa. Adieu.
Oui, non, c'est ça, exactement. Je suis pas sûr d'être là pour la chronique de demain. Mais bon, blague à part, je me pose la question si... j'ai pas de problème à le croire qu'en moyenne, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a aussi une forme de norme féminine différente de celle masculine par rapport aux travaux domestiques? Et je m'explique. Quand j'ai un ami dont je tairai le nom, parce que c'est pas nécessairement glorieux.
Ça commence souvent mal de dire j'ai un ami pour expliquer une situation un petit peu délicate, mais je te laisse aller au fond de ta pensée, comme dirait Marc Tanguay.
Quand il était célibataire, son appartement, disons, c'était pas l'endroit, c'est ça, le plus glorieux. C'était assez poussiéreux, la vaisselle n'était pas toujours faite, mais il était heureux là-dedans. Maintenant, il est en couple et son appartement, on peut manger à terre, là, c'est-à-dire c'est propre. Et je me pose la question, est-ce que finalement, en moyenne, évidemment, je ne veux pas généraliser, là, mais en moyenne, est-ce qu'il y a une forme de normes féminines que les femmes, en moyenne, aiment davantage avoir un appartement ou une maison un peu plus ordonnée que les hommes, et ça fait en sorte que les femmes sont peut-être un peu plus prêtes à en faire? Je me pose la question ici.
La question, c'est est-ce qu'elles sont prêtes à en faire ou est-ce qu'elles doivent en faire, parce que si elles le font pas, il y a personne d'autre dans la maison qui va le faire. Ça aussi, c'est une question qui est à poser. Puis je pense qu'on n'est pas obligé d'être dans les extrêmes où l'appartement complètement pouilleux ou la maison où on peut manger à terre, là, mais tu sais, une maison qui est propre puis qui est utilisable, où on peut manger sur une chaise puis sur une table avec des ustensiles propres, tu sais, comme une moyenne, là, disons. Est-ce que dans cette moyenne-là, les femmes en font plus que les hommes? Je suis persuadée que les femmes en font plus que les hommes.
Oui, tout à fait. Moi aussi, j'ai pas de difficulté à le croire, comme je te dis, mais je me demande à nouveau, et c'est vraiment ça la question de fond, j'ai l'impression, c'est parce qu'on vit dans une société libérale où de plus en plus on dit ah, faut pas juger les gens, mais là il y a une relation entre un homme et une femme qui on dit que la femme en fait plus pour ça, l'homme en fait moins pour ça sur tel sujet. Puis là, est-ce que collectivement, il faudrait se mêler de ça puis dire ça a pas d'allure, il faudrait que ce soit 50-50 dans les tâches domestiques. Je sais pas, il y a comme une relation de couple qui on n'a pas accès à tous les détails.
Qui démontre qu'il y a une donnée qui est systémique et qui est à chaque année la même, celle que les femmes font plus. Là, c'est pas comme si il y a une année on disait c'est les hommes qui en font plus, puis l'année d'après c'est les femmes qui en font plus, puis là finalement ça finit par trouver une moyenne. mais c'est continuel. À chaque année, les données démontrent que les femmes en font plus. C'est là où ça devient intéressant statistiquement.
Oui, mais ça reste dans le foyer familial, tu sais. Historiquement, je veux dire, l'État ou la discussion collective, évidemment, autant que ce soit pas criminel ce qu'on fait, mais ça s'arrêtait au bord de la porte, là. Donc, je me pose la question...
On devrait pas s'y intéresser, d'après toi?
Oui, on peut s'y intéresser, mais je veux dire... De plus en plus va notre société, plus on dit faut pas juger les gens, puis je me dis... Ben les couples font aussi des accords entre eux, puis on n'est pas au courant de tout. Peut-être que l'homme en fait moins là, mais il en fait plus ailleurs, je sais pas.
Mais ça, c'est surinterpréter des données qui sont juste objectives sur le nombre d'heures consacrées à certaines tâches. On se pose aussi la question du nombre de femmes, par exemple, entrepreneurs, combien d'heures par semaine en moyenne elles accordent au réseautage par rapport aux hommes au réseautage. Il y a une grande disparité là-dedans. Ça peut nous laisser croire que, évidemment, elles peuvent moins contribuer au succès de leurs entreprises puisqu'elles passent moins de temps à tisser des liens d'affaires avec le réseautage. Ces données-là sont quand même parlantes quelque part?
Oui, probablement que c'est parlant, mais on pourrait dire, c'est-à-dire que s'il y a un déficit, s'il y a un déséquilibre entre l'homme et la femme dans le couple, c'est au couple de régler ça en quelque sorte. C'est pas.
Mais il y a personne qui essaie de le régler à leur place. C'est une constatation que année après année, les femmes en font plus.
Oui, de ce point de vue-là, on est d'accord. Puis aussi, évidemment, la question qui est en lien avec ça aussi, des emplois genrés. Hein? Moi, par exemple, je fais un travail, et là, j'ouvre les guillemets, là, je fais un travail de femme étant enseignant. Hein? Donc, la majorité des enseignants sont en fait des enseignantes. Et contrairement à ce que dit l'article du Devoir, puis contrairement à beaucoup de choses, moi, ça me cause plus ou moins de problèmes qu'il y ait certaines différences. Évidemment, faut pas que ça soit... du 99% de femmes et 1% d'hommes ou vice-versa. Mais quand il y a une tendance en enseignement, par exemple, je trouve pas ça surprenant puis ça me fâche pas tant que ça. Au contraire, même historiquement, en prenant en considération ces différences-là puis en disant, ben écoutez, les emplois traditionnellement féminins, il y a peut-être une espèce de rattrapage salarial à faire. Donc non, ça me dérange pas vraiment que les emplois soient en quelque sorte genrés, comme on le dit dans l'article.
En fait, c'est que c'est pas tant le problème qu'elles soient genrées qu'on se rend compte que celles qui sont genrées sont moins bien payées. Et c'est là où ça devient une problématique, où on se pose la question, est-ce qu'elles sont moins bien payées parce que ces professions-là sont genrées? Qu'est-ce que t'en penses, David?
Ben... Il y a mille et une raisons aussi. Faut pas non plus simplifier le tout. C'est sûr que historiquement, il y a cette explication-là. Certains emplois étaient davantage réservés aux femmes, donc on les a moins valorisés. Il y a aussi l'aspect, faut le prendre en considération aussi, là. C'est-à-dire que les emplois typiquement féminins, c'est des emplois beaucoup qui se travaillent dans le personne à personne, hein, avec l'humain. Donc, on parle enseignant, on parle du monde de la santé, on parle de la psychologie. Et c'est des emplois c'est difficile de faire des économies d'échelle. Donc, tu sais, si t'es un ingénieur, tu fais un logiciel, tu peux le vendre 100 000 copies. Si t'es un enseignant, c'est pas mal plus difficile de te multiplier. Tu peux pas encore te cloner, malheureusement. Mais donc ça, c'est une des réalités aussi qu'on doit prendre en considération. À nouveau, je minimise pas aussi l'aspect du sexisme historique, si on peut dire, là. Mais donc c'est difficile aussi de comparer des salaires en différents milieux, ça c'est certain.
Mais c'est sûr que lorsqu'on voit dans les statistiques que dans l'enseignement, services sociaux et la santé, les femmes sont largement dominantes. Et ce sont des domaines où les salaires sont plus bas par rapport au domaine de la gestion qui reste un domaine où il y a aussi de l'être humain. Là, on est dans les domaines de gestion, de cadre, des emplois supérieurs. Ben, on est en droit de se poser la question pourquoi ces postes-là, alors qu'on a vu qu'ils étaient encore plus importants durant la pandémie, demeurent les parents pauvres du marché du travail en général.
Ouais, tout à fait. Là, c'est sûr, c'est pas des emplois aussi. On le voit de plus en plus. Hein. Il y a comme une espèce de pénurie. Ben, ça date pas d'hier, là, d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires, d'enseignants. Et ça revient un peu à la discussion qu'on avait il y a quelques jours sur la question de la valorisation des emplois. Ça revient à chaque année dans les nouvelles, puis on n'a pas fini, ça c'est certain.
Tu veux revenir sur la chronique de Sophie Durocher à propos de la violence qui est tolérée dans les propos, dans les paroles de certaines chansons, notamment celle du groupe québécois Dope Gang.
Ouais, tout à fait. Je veux montrer une espèce de paradoxe de ce qu'on appelle aujourd'hui la culture du bannissement. Hein. Donc aujourd'hui, on voit une espèce de problème à dire le titre d'un essai contenant ce qu'on appelle le mot en haine aujourd'hui, ou de faire une pièce de théâtre avec des chants d'esclaves. Mais d'un autre côté, il y a le groupe Dope Gang qui parle, et là j'ouvre les guillemets, hein, c'est pas moi qui dis ça, d'éclater des ports. Évidemment, on fait référence ici à la police. On parle de brûler le Québec de Legault. Donc ça, on parle aussi dans la chanson des boomers et tout ça. Donc, c'est des commentaires très, très inquiétants. Et le groupe a été présent à Fierté Montréal qui vient de se terminer en fin de semaine. Et je me dis, évidemment, je ne souhaite pas la censure ici, mais il y a une différence entre censurer un groupe et décider de pas en faire la promotion. Et moi, ça me chicote vraiment qu'on fasse la promotion d'un tel groupe qui a des paroles franchement inquiétantes.
Est-ce qu'on aurait dû ne pas recevoir Sean Paul à l'île Sonic en fin de semaine?
Je ne connais pas assez ses paroles, mais la question se pose, ça c'est certain.
Mais alors, ça finalement, t'embarques dans cette culture du bannissement et de la cancel culture où on garde ce qu'on veut puis qu'on tasse et qu'on étouffe du moins ce qu'on ne veut pas.
Ben, je veux dire, quand il y a véritablement et à nouveau, il y aurait une différence aussi entre canceller quelqu'un et dire, d'après ma barre, ils mettent de l'avant des valeurs qui sont franchement inquiétantes. Et à tout le moins, je le répète parce qu'on en a parlé dans certains médias, on n'est pas obligé d'en faire la promotion. Donc ça, c'est vraiment... Et il faut surtout le critiquer quand on le présente, ce qu'on ne faisait pas ici et là.
Est-ce qu'on devrait arrêter de diffuser des chansons hip-hop, notamment américaines, sur les ondes des radios, qu'elles sont anglophones ou francophones?
Moi, j'aurais tendance à dire que non, je le répète, mais à nouveau, c'est le paradoxe de la culture du bannissement. On est très, très sévère pour quelque chose qui est inoffensif, faire une pièce de théâtre. Je veux dire, on peut être d'accord ou non avec Robert Lepage, hein, on se rappellera de la pièce slave à l'été 2018, mais en même temps, ça reste assez bénin par rapport à des espèces de menaces de brûler des condos, brûler le Québec de Legault et d'éclater des ports. Il y a une espèce de paradoxe.
Mais ça dépend dans quelle posture on se pose. Parce que si je parle à quelqu'un de la communauté noire ou quelqu'un qui a vu cela, ben, peut-être qu'il peut considérer que les chansons, les artistes que sont ce groupe de musical, c'est inoffensif par rapport à la pièce de théâtre qui a une portée plus grande. Donc ça dépend d'où est-ce qu'on se place.
Ah, mais il y a une limite, je comprends la posture un peu relativiste, là, Yasmine, mais il y a une limite, là, je veux dire. Ici, on a quand même quelque chose d'assez objectif, éclater des ports en faisant référence à la police. C'est un commentaire violent, il y a pas de doute, là. Mais par contre, faire une pièce de théâtre, je veux dire, là, il y a véritablement une question de sensibilité, si on peut dire, puis ça, c'est tirer un peu l'élastique à mon sens, là. Il y a une limite au relativisme, je pense.
J'appelle juste à la cohérence, que c'est soit on veut la culture du bannissement, soit on la veut pas, mais être à demi enceinte, c'est très difficile. David Santarossa, merci beaucoup. On se reparle demain.
À demain.